Alors, l'exposé de Monsieur Le Quéo supposait en conclusion des focales sur des points précis. C'est justement ce que nous nous proposons de faire. Donc, avec les trois représentantes de la DCB, promotion DCB 26, promotion Nina Simone de l'ENSIB, qui viennent donc, Ivalix le rappelait ce matin, non seulement de terminer leur formation, mais leur affectation, et qui vont finir de signer également leurs autorisations de diffusion. Donc, je les remercie particulièrement toutes les trois, puisque les temps ont été assez difficiles. On peut rappeler, on ne l'a pas fait ce matin, que ces journées bibliothèque à la loupe ont été un petit peu décalées en fonction du temps plus important laissé aux élèves conservateurs pour faire leur mémoire, et donc pour qu'ils puissent le présenter, il fallait que nous ayons davantage de temps. Et pour les collègues qui m'entourent, et bien donc ça s'est passé en plein milieu, la préparation de cette journée, en plein milieu de leurs entretiens d'embauche dans les postes auxquels elles postulaient. Alors, c'est les trois personnes qui m'entourent et les trois femmes, pour reprendre ce que disait Ivalix, puisque l'INSIB, vous ce matin, signalé le côté très féminin de notre représentation. Donc, Colline Gossignac a fait, sous la direction de Romain Gaillard, un mémoire sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée en bibliothèque, Panorama et Perspective. J'ai ensuite deux Mathilde, donc celle qui est à ma gauche, Mathilde Laurie-Regnault, a étudié avec Christophe Evans les personas en bibliothèque universitaire, quels usages et quels bénéfices. Et Mathilde Herrero, à ma droite, a travaillé sur un mémoire qui s'appelle « Développer des accès aux services publics de proximité, l'accompagnement des marches administratives en bibliothèque ». Avec votre serviteur, donc André-Pierre Sirène, qui suit un des adjoints d'Ivalix à l'ENSIB. Donc le métier évolue. Il évolue beaucoup vers la démarche usagée. On s'en est occupé toute la journée. On le sait que c'était le thème du congrès début en 2016. Et si l'ambition des trois présentations que nous allons faire, enfin que mes collègues vont faire maintenant, n'est pas justement de faire un résumé l'une après l'autre de leur mémoire. Elles ont souhaité qu'on essaye d'animer cela autour de questions communes. Je précise également que nul parmi nous quatre n'a l'ambition de dire que cela résume toute la production de recherche de l'ENSIB. Ce sont trois mémoires parmi les plus intéressants et surtout les plus adaptés à la journée d'aujourd'hui. Et cette démarche... Donc je vais leur laisser la parole désormais en commençant par des balises. J'ai donné vos sujets et ce que l'on peut commencer, donc, s'il vous plaît, c'est voir quelles sont les focales que vous avez étudiées les unes et les autres et peut-être des précisions de vocabulaire car on l'a vu lors de nos entretiens, tout le monde ne connaît pas tous les usages. Donc Mathilde, les personas, qu'est-ce que c'est ?
Bonjour à tous. Alors, les personas désignent une méthode d'aide à la conception qui accompagne une démarche centrée utilisateur. Donc, on les retrouve assez logiquement dans la boîte à outils du design UX, design d'expérience utilisateur, du design thinking et y compris du design de service public, puisqu'ils figurent notamment dans la boîte à outils qui s'appelle « Comment faire ?» sur le site du SGMAP, Secrétariat Général pour la Modernisation de l'Action Publique. Donc en fait, les personas incarne un archétype d'utilisateur, c'est-à-dire un groupe d'utilisateurs dont les besoins, les attentes ou les comportements sont similaires. Donc ça veut dire que le persona est un personnage fictif, mais, et c'est très important, il est construit à partir de données réelles, notamment issues de l'observation, de l'expérience de l'usager. Donc ça se présente tout simplement sous la forme d'une fiche d'identité, généralement un format A4, portrait ou paysage. Sur cette fiche figure le nom du persona, un visage, donc une photo ou une illustration, des éléments biographiques et un court récit qui peut par exemple prendre la forme d'une journée type dans la peau de cet usager, cet utilisateur, et puis un certain nombre de caractéristiques qui sont pertinentes par rapport à l'objectif visé. Donc, par exemple, si on utilise les personas dans le cadre d'une refonte de site internet, on va bien sûr indiquer les compétences numériques du persona dont il est question. Donc, quel est l'intérêt des personas? En fait, quand ils ont été formalisés par Alan Cooper à la fin des années 90, c'était dans un contexte d'interface homme-machine. Et l'idée, c'était vraiment de faire en sorte que le point de vue de l'utilisateur soit prise en compte en amont de la conception d'un logiciel. L'idée, c'était vraiment qu'un logiciel devait être adapté à ses utilisateurs et non l'inverse. Donc, ça voulait dire que d'avoir, sous la forme de ces fiches d'identité, un type d'usager, un profil d'usager qui soit incarné, permettait de s'y référer régulièrement et donc de s'assurer qu'on n'oublie jamais son point de vue et qu'il soit tout le temps au cœur des discussions et des préoccupations des concepteurs. Donc, si on applique cette démarche à un développement de service, par exemple, ça veut dire qu'on va passer d'une méthode qui reposerait uniquement sur le jugement ou les perceptions du professionnel, pour au contraire adopter une démarche qui, très en amont, prenne en compte le point de vue de l'usager. Donc pourquoi est-ce que c'est intéressant dans le contexte des bibliothèques? Eh bien notamment parce que ça résonne avec un enjeu très fort pour les bibliothèques aujourd'hui, qui est la nécessaire adaptation des bibliothèques à l'évolution des publics et de leurs usages. Voilà, pour commencer.
Colline, vous reprenez, parce que alors vous, vous avez, à l'inverse, donc en passant, enfin votre sujet, je l'ai dit, était réalité augmentée et virtuelle, et déjà cet exposé suppose peut-être une explication aussi, de savoir quels sont les domaines couverts.
Tout à fait. Donc bonjour à tous. Donc mon travail consistait pour une première partie à une définition des termes, parce que c'est vrai que réalité augmentée, réalité virtuelle, c'est des termes parfois qui n'apparaissent pas très clairs. Et lors de l'enquête que j'avais menée auprès de bibliothécaires, de professionnels, la confusion apparaissait, c'est vrai, comme encore assez grande. Donc pour définir assez rapidement ce que recouvrent ces termes, donc la réalité augmentée et la réalité virtuelle, ce sont deux technologies qu'on qualifie d'immersives, donc en lien avec l'immersion. La réalité augmentée, pour prendre un exemple très, je pense qui est quand même très connu, Pokémon Go, le principe de la réalité augmentée est de faire apparaître, de superposer des éléments virtuels sur l'environnement réel à travers l'écran d'un smartphone, d'une tablette ou voilà, d'un ordinateur, mais plus généralement d'un objet plus mobile. Alors que pour la réalité virtuelle, le degré d'immersion est beaucoup plus fort. C'est-à-dire qu'à travers un casque, il peut s'agir des casques comme le Vive, des casques assez importants, ou des petits casques qu'on peut apposer sur son téléphone portable, l'utilisateur est vraiment immergé, plongé dans un monde virtuel. Donc cette définition, elle apparaissait comme importante, parce que, comme je le disais, une partie de l'enquête que j'avais menée, s'attacher à la définition, à la perception et à la connaissance par les bibliothécaires, par les répondants de ces technologies. Et ce que j'ai apprécié, c'était la franchise des professionnels qui me disaient, voilà, je ne suis pas tout à fait sûre de ce que ça peut recouvrir en termes de technologies très précises. Et une dernière chose que je dois préciser, c'est qu'on parle de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle. Je veux dire, auprès du grand public depuis les années 2010. Elles sont utilisées en bibliothèque depuis les années 2010, un peu plus tard pour la réalité virtuelle, mais ce sont des technologies qui sont assez anciennes. Elles remontent aux années 1960, mais la commercialisation est assez récente. Donc ce qui était intéressant pour ce mémoire, c'était de voir sur une durée assez courte, moins de 10 ans, l'appropriation dans des domaines aussi divers que la médiation culturelle, le repérage des espaces ou les jeux vidéo en bibliothèque.
Oui, on reviendra sur les aspects, sur l'antériorité, effectivement. Et donc, comme Mathilde, pour les démarches administratives, on a parfois moins de virtuel et pas mal de réel, avec un environnement qui bouge, lui, et qui en tout cas, n'est plus forcément celui que le bibliothécaire a connu naguère.
Tout à fait. Quoi qu'on ait un petit peu de... On peut avoir un peu de virtuel aussi, mais tout à fait. Si vous voulez bien, avant de définir très brièvement les termes de mon sujet, donc l'accompagnement aux démarches administratives en bibliothèque, je vais commencer par quelques chiffres qui sont assez révélateurs et qui va contribuer à vous expliquer pourquoi j'ai choisi de travailler sur ce sujet. Alors, une personne sur cinq éprouve des difficultés à accomplir ses démarches administratives courantes. Et ce phénomène concerne surtout les personnes les plus précaires, puisque 25% des personnes déclarant des difficultés financières sont confrontées à ce genre de situation, contre 17% des personnes ne déclarant aucune difficulté financière. Donc ces éléments sont soulignés par la récente enquête sur l'accès aux droits et sur les relations entre les usagers et les services publics, dont le défenseur des droits était l'auteur il y a un an. Donc, réaliser une démarche, qu'est-ce que c'est pour un individu? Alors, rappelons là qu'il s'agit des citoyens, mais également des résidents. Hein. C'est une définition très large de la citoyenneté. Donc, pour un individu, réaliser une démarche administrative, c'est engager une action auprès d'une autorité, que ce soit l'État, une collectivité territoriale, un organisme public, parapublic, voilà, dans le but d'accéder à des droits, comme demander une allocation, mais également dans le but de réaliser ses devoirs, comme déclarer ses impôts. Donc la lutte contre le risque de non-recours aux droits figure comme un enjeu pour garantir un exercice effectif, un exercice plein et entier de la citoyenneté. Dans un contexte où les politiques de rationalisation de l'accueil public encouragent la dématérialisation, et suppose que les usagers soient de plus en plus autonomes dans la réalisation de leurs démarches. Et c'est là que les bibliothèques interviennent comme des intermédiaires publics par débordement, en accompagnant les usagers dans la réalisation de leurs démarches. Alors, comment définir ce terme d'accompagnement? Parce que c'est un terme un petit peu flou. Le synonyme qu'on pourrait trouver dans les bibliothèques, ou même plus largement, c'est la médiation. Donc c'est une façon, ce sont des moyens pour favoriser l'autonomie des usagers dans la réalisation de leurs démarches, en l'occurrence. Mais j'ai choisi d'utiliser le terme d'accompagnement car c'est un terme dont l'utilisation s'est intensifiée ces dernières années dans les politiques publiques, dans la mesure où ces politiques publiques tendent à s'individualiser, et donc il est nécessaire d'accompagner les individus dans le cadre de la mise en œuvre de ces politiques publiques, et cela s'applique surtout pour les politiques sociales. Alors mon travail, après ces définitions, avait un double objectif. D'abord de comprendre dans quelle mesure les services d'accompagnement aux démarches administratives proposés en bibliothèque municipale et intercommunale sont susceptibles de contribuer à la mise en œuvre d'une politique territoriale de lutte contre les inégalités d'accès aux droits. Et ensuite, de comprendre comment ces services, ces nouveaux services d'accompagnement aux démarches, participent de la transformation des missions de ces mêmes bibliothèques et de la transformation de leur positionnement au sein des territoires.
Et sur ce sujet, justement, parce que nul n'est prophète en son pays, vous avez commencé aussi par des exemples étrangers.
Tout à fait. En fait, je suis rentrée dans ce sujet à travers l'exemple de Doc One au Danemark. Et j'ai ensuite élargi à des bibliothèques anglaises, hollandaises et également des bibliothèques espagnoles qui jouent un rôle social important. Et donc j'ai pu observer plusieurs types d'accompagnement des démarches administratives dans ces pays qui m'ont permis de commencer à dresser une typologie de ces services d'accompagnement depuis l'établissement hybride comme Doc One qui intègre toute une palette de services publics de la communauté de Rousse jusqu'à la bibliothèque qui est à une convention avec un centre social ou avec des associations à but social. Voilà, donc ça m'a permis d'entrer dans le sujet pour ensuite réfléchir à cette question en France.
Et donc le premier sujet, parce que là on parlait d'atteindre ce matin, on parle d'atteindre des nouveaux publics, voire quand on a pari parfois de les partager. Et je reprends avec l'autre Mathilde, c'est la question effectivement, le commandement de l'UX, parce qu'il y a un livre dont on n'a pas parlé, j'aurais pu le faire en introduction, utile, utilisable, désirable, par ailleurs publié aux presses de l'ENSIP dans l'excellente collection La Numérique qu'anime Muriel Amar. Donc peut-être on peut justement présenter, alors peut-être si vous voulez parler un petit peu de ce livre, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il émet des commandements, entre guillemets, dont vous avez rappelé le premier. Le premier, c'est que vous n'êtes pas votre usager. Et le 4, c'est construisez de l'empathie. Et lorsque nous avons parlé de cette intervention, l'empathie est un mot qui revenait vraiment régulièrement dans votre argumentaire.
En effet, parce que parmi les bénéfices que j'ai pu dégager pour les bibliothèques dans l'utilisation des personas, celui qui s'est imposé très vite, c'est effectivement la capacité des personas à susciter l'empathie, c'est-à-dire à inciter à se mettre dans les pas de l'usager. Et effectivement, l'un des principes clés de l'UX, c'est « you are not the user », vous n'êtes pas l'usager. Ce que Carole Le Truit, dans un ouvrage récent, « Les métiers des bibliothèques », exprime très bien pour les bibliothèques en disant « un usager ne ressemble pas à un bibliothécaire et inversement, celui-ci ne peut donc pas raisonner à partir de sa propre expérience ». Donc l'idée avec les personas, c'est vraiment de quitter pour un temps ses réflexes professionnels pour adopter le point de vue de l'usager et donc mieux comprendre ses besoins, ses attentes, ses frustrations éventuelles, ses difficultés éventuelles. Donc c'est véritablement un outil de décentrement et qui est un véritable outil facilitateur parce que j'ai réalisé un certain nombre d'entretiens avec des personnels de bibliothèque qui avaient participé à des ateliers persona pour ce mémoire. Et en fait, la plupart d'entre eux m'ont dit « ça n'est pas facile de se mettre à la place de l'usager ». En fait, on a vraiment nos habitudes, nos réflexes de professionnels. Il y a aussi la question de la formation. Certains ont été formés au métier dans un contexte totalement différent de celui des bibliothèques aujourd'hui. Donc, de toute évidence, il n'est pas si facile que ça de vraiment quitter sa posture de professionnel pour se mettre à la place de l'usager. Donc, dans cette démarche, les personas se révèlent très efficaces, très utiles. Et d'ailleurs, dans les retours d'expérience que j'ai réunis pour ce mémoire, il y a deux établissements qui ont vraiment utilisé les personas comme un outil facilitateur d'empathie. C'est-à-dire qu'ils se sont emparés des personas pour aider les agents à adopter le point de vue des publics. Donc, ça a notamment été le cas dans les bibliothèques de l'Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, qui, à l'occasion d'une journée des personnels, a organisé une après-midi, une journée dans les pas de l'usager. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ils ont associé deux méthodes très complémentaires et qui, manifestement, fonctionnent très bien l'une avec l'autre. C'est donc d'un côté les personas et de l'autre une initiative qui s'appelle Work Like a Patron Day, donc journée dans les pas de l'usager, et qui suppose d'utiliser la bibliothèque pendant un temps défini en se mettant vraiment dans la peau d'un usager. Donc ça veut dire recréer un rapport d'étonnement par rapport à son environnement de travail. Et ce qu'il en ressort, c'est très vite des idées très concrètes. Donc là, en l'occurrence, par exemple, à l'issue de cette journée, il y a eu beaucoup de propositions qui ont été faites par les personnels, des choses extrêmement rapides à mettre en place, comme l'installation d'une horloge dans la cafétéria, jusqu'à des ateliers de travail qui ont été mis en place par la suite et qui visaient à travailler sur la signalétique ou sur les salles de travail en groupe. Et puis, d'autre part, le SCD de l'Université Aix-Marseille, là encore, à l'occasion d'une journée des personnels, a organisé une série d'ateliers. Et parmi ces ateliers, il y avait des ateliers créés, animés, des personas. L'idée, c'était d'accompagner une démarche UX qui est inscrite dans le projet de service de l'établissement. Donc là encore, c'était vraiment utiliser les personas comme un outil médiateur, comme un outil d'accompagnement qui permettait de donner du sens à une démarche qui n'est pas toujours connue des personnels et qui permettait, là encore, de se projeter dans la peau des publics et d'essayer vraiment de comprendre et de s'emparer d'un renversement de perspective, donc un véritable exercice de décentrement et d'empathie.
De se mettre dans la peau, et pas simplement dans leur discours, vous soulignez également, parce que, on l'a vu ce matin encore et tout à l'heure, parfois l'usager adopte des attitudes plutôt travailleuses ou autre chose. Là, effectivement, il s'agit d'avoir quasiment une expérimentation réelle en mettant à jour le persona à l'épreuve du concret, de
oui,
l'hypothèse en tout cas.
C'est vraiment son expérience réelle, et puis c'est surtout la totalité de son expérience, c'est-à-dire que ce que l'UX va chercher, et qui permet du coup d'aller plus loin qu'avec des enquêtes classiques, traditionnelles, l'idée c'est vraiment de se dire, quand l'usager est dans la bibliothèque, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il sent, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ressent. Et donc, en partant de là, comment est-ce que je peux mettre en place des espaces et des services qui procurent la meilleure expérience possible à cet usager. Donc, c'est effectivement la démarche, bien sûr, de s'intéresser au public, de chercher à comprendre leurs besoins n'est pas nouvelle, mais l'UX essaye vraiment de pousser beaucoup plus loin et de s'intéresser vraiment à ce que font les usagers plutôt qu'à ce qu'ils déclarent faire, puisqu'il peut y avoir des biais également dans la façon dont sont remplies les enquêtes.
Alors, pour Colline, il y avait, alors, dans les mots compliqués, en tout cas pas connus, moi encore, qui vient de la Lorraine, j'arrive à comprendre Gamtisch, ou Gamtisch, je ne sais pas comment il le prononce à Strasbourg.
Oui.
Oui, Gam ou Game
Honnêtement, je
vous n'avez pas
vous pouvez le dire. Je n'ai pas tellement cherché à le prononcer.
Voilà, parce que donc il y a des effets de sociabilisation, je dirais, qui reprennent des habitus qui existent. Bon, par ailleurs, parce que peut-être effectivement on peut préciser qu'en Alsace, la Stammtisch, c'est celle justement où on se retrouve, c'est la table d'hôte, enfin pas la table d'hôte, la table des habitués dans un resto ou dans un bistrot. Et c'est intéressant parce que c'est ce qu'on trouvait ce matin sur l'enquête de BPI, c'était les gens qui revenaient dans un endroit dont ils avaient l'usage, c'était leur lieu in fine. Donc vous allez pouvoir nous dire comment l'expérience strasbourgeoise de la Gamtisch, si on le fait à la germanique. Et en revanche, dans les différentes relations de votre enquête, puisque j'ai oublié de le dire, mais cela va de soi, chacune de vous avait travaillé sur un questionnaire de collecte préalable. Les collègues en bibliothèque sont parfois confrontés à des effets. On parlait avec M. Lequeo tout à l'heure de l'idée, de l'horizon de réception, en tout cas, du public, et qu'arriver soi-même tout armé d'un projet technologique ne fait pas qu'on arrive systématiquement à la hauteur attendue par le public, soit qu'il est un peu déçu, soit qu'il est tout à fait émerveillé. Donc cette réalité, elle est également donc, dans le rapport du bibliothécaire à l'usager, en quelque sorte.
Ouais. Alors, pour parler brièvement de l'expérience de la Gamtisch ou Gamtisch, voilà, la prononciation reste ouverte. Il s'agit d'une expérimentation qui est menée par les médiathèques, le réseau des médiathèques de Strasbourg, et qui propose en fait aux usagers différentes expériences en lien avec la réalité virtuelle. C'est un exemple que j'ai beaucoup abordé dans mon mémoire, étant donné que l'utilisation de la réalité virtuelle est intéressante en ce qu'elle dépasse la simple utilisation pour les jeux vidéo et propose une appropriation par les usagers, en tout cas une appropriation vraiment poussée à travers des applications créatives, que ce soit des applications musicales, des applications artistiques. Par exemple, il y a une application qui est assez fréquemment utilisée qui s'appelle Tiltbrush et qui permet à l'utilisateur de dessiner, de peindre dans l'environnement virtuel qui apparaît dans le casque. Donc ce sont plusieurs types d'expériences vraiment profitables pour les usagers et qui leur permet aussi d'avoir différents aperçus de la réalité virtuelle et de se l'approprier. Donc cette expérience trouve aussi d'autres résonances dans d'autres établissements, puisque notamment, pour parler d'un exemple parisien, c'est les médiathèques Marguerite Yourcenar qui a ouvert récemment une salle de réalité virtuelle qui propose en fait une découverte assez semblable, assez similaire, avec différents temps d'initiation, des temps plus courts, des temps plus longs pour les personnes qui ont déjà eu l'occasion d'expérimenter la technologie. Et encore une fois, des possibilités de création artistique, musicale, d'immersion, de jeux vidéo. Donc la création de ces espaces dédiés aux technologies immersives, c'est une problématique que j'ai souhaité aborder et qui m'apparaît être une tendance, qui vers lesquelles s'orientent certaines des bibliothèques qui utilisent la réalité augmentée ou la réalité virtuelle. Puisque la réalité virtuelle, en fait, nécessite un espace d'utilisation propice, sans risque de chute. Voilà, ça paraît un petit peu accessoire, mais les questions de sécurité sont assez importantes, d'où la nécessité d'un espace dédié, d'un accompagnement dédié. En ce qui concerne le rapport entre le bibliothécaire et l'usager, il me semble qu'étant donné la complexité apparente de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, parmi les professionnels que j'ai pu interroger, j'ai trouvé que Les professionnels en question, par justement le fait de cette complexité, cherchaient à, voilà, à se mettre à la place de l'usager, à intégrer la difficulté qui peut apparaître, les craintes qui peuvent apparaître, par exemple, lorsqu'on souhaite lire un album en réalité augmentée à l'aide d'une tablette, découvrir la réalité virtuelle par un jeu vidéo, une expérience immersive. Il y a vraiment un travail de médiation, tout d'abord auprès des équipes, puisque souvent, parmi les professionnels que j'ai pu interroger, les projets provenaient souvent d'une personne chargée de mission numérique, responsable du numérique dans son établissement, qui devait dans un premier temps démocratiser, enfin, je pense que c'est un terme important, la démocratisation, qui devait démocratiser et opérer un travail de médiation auprès de ses collègues. Et dans un second temps, les collègues formés ainsi que cette personne devaient proposer cette technologie, et pas seulement proposer les outils, mais construire un temps de formation, construire un discours autour de ces technologies. Donc c'est pas uniquement, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est pas uniquement un gadget, essayez le casque de réalité virtuelle, c'est incroyable, c'est fascinant, c'est surprenant, mais regardez, c'était plutôt un discours, regardez ce que vous pouvez faire avec ce casque, vous pouvez créer vos œuvres, vous pouvez explorer un tableau de Van Gogh, toutes ces possibilités sont exploitées, et il y a vraiment ce travail de médiation, de démocratisation qui apparaît comme essentiel.
Et parfois, le travail ne paie pas, comme vous le montrez avec les QR codes.
Effectivement. Donc, les QR codes, c'est une forme de réalité augmentée, et c'est la première forme sous laquelle la réalité augmentée est apparue en bibliothèque. Et bon, c'est un débat dans lequel, qui existe déjà depuis plusieurs années. Je n'ai aucune question, aucune réponse, en tout cas, définitive à apporter. Mais une bonne partie des professionnels que j'ai pu interroger me disaient les QR codes, on a essayé, ça ne marche pas, il faut complètement abandonner. Et régulièrement, encore récemment, je vois sur les réseaux sociaux, sur les groupes professionnels, des personnes qui expliquent que si, ils ont utilisé les QR codes et ça fonctionne. Donc le QR code, je pense que c'est encore quelque chose d'assez particulier, parce qu'il n'y a pas la dimension ludique qui apparaît avec les autres formes de réalité augmentée ou avec la réalité virtuelle. Voilà, c'est scanner un QR code. Je ne critique pas, mais le fait est que l'effet n'est pas le même. La réception n'est pas la même. On n'a pas l'effet waouh dont parlaient les bibliothécaires. Enfin, en tout cas, c'est l'expression qui a été utilisée par plusieurs personnes avec qui j'ai pu mener des entretiens, et qui me disaient que l'effet spectaculaire des technologies immersives était vraiment quelque chose qui un atout pour convaincre la hiérarchie, pour convaincre le reste de l'équipe et pour inciter des usagers, parfois des usagers ou des non-usagers, à venir fréquenter la bibliothèque et à découvrir les outils.
Alors pour cela, on a deux pistes qui s'offrent à nous sur voir effectivement quel est le type de discours, et là aussi c'est un sujet qui était quelque peu récurrent dans la journée, ou comme vous l'avez dit, voir comment l'application se met dans le projet d'établissement. Et peut-être je vais commencer par là. Alors peut-être on vous ressent d'ailleurs tout de suite la parole, Colline, sur le fait que dans les exemples que vous citez, il y a une singularité, enfin à mes yeux, c'est qu'on trouve énormément de petites bibliothèques, de bibliothèques de petites villes, ou villes moyennes, Béton, Beaune, Caux, Marboze, Sorgues, Lagny-sur-Marne, Saint-Avertin, Gujan-Mestras, et au contraire, on a des gros réseaux, Ursenard et Sagan à Paris, Saint-Nazaire, Angoulême, Montpellier, Lille, Strasbourg. Est-ce que c'est moi qui ai lu de travers, ou est-ce que les expériences de ce projet d'établissement que vous appeliez, en disant qu'il ne suffit pas de mettre une lunette de réalité virtuelle, mais de l'intégrer dans le projet, est-ce qu'il y a effectivement une diffraction du panel dans ces deux petits, et une sorte de trou au centre?
Effectivement, je pense que ça a été un premier étonnement lorsque j'ai réalisé l'enquête et que j'ai eu accès à des résultats avec un panel suffisamment large et suffisamment fiable. Au début de cette étude, je pensais vraiment que la réalité augmentée, la réalité virtuelle, par les coûts qu'elles engendraient, le besoin de formation qu'elles nécessitaient, était limité aux grandes et aux moyennes villes. Et j'ai rapidement réalisé que ça n'était pas du tout le cas et qu'il y a, comme vous, voilà, vous avez cité plusieurs noms de petites villes, mais vraiment des villes que je ne connaissais pas avant, en tout cas pour ce travail technologique, clairement, et qui se sont emparées des technologies, tout comme des réseaux de grandes villes. Donc on peut parler de Montpellier, de Strasbourg, de plus pour la réalité augmentée, de Lille et de Paris. Des réseaux de villes de taille conséquente qui ont souhaité développer un projet. Alors bien souvent, ce projet est plus rattaché à un établissement moteur, mais qui diffuse ensuite les pratiques, le matériel auprès des autres membres du réseau. Mais c'est vrai que il y a vraiment, comme vous le dites, un écart, puisqu'il y a un ensemble de moyennes villes de villes de taille moyenne qu'on aurait pu attendre dans ce type de dispositif, et qui n'y apparaissent pas. En tout cas, le point commun qui apparaît, selon moi, dans l'ensemble des villes représentées, c'est le contexte et surtout le soutien de la tutelle. Pour les petites villes, les villes de petite taille, les professionnels que j'ai interrogés ont énormément apprécié le fait que leur tutelle favorise l'acquisition, par exemple, des casques de réalité virtuelle, ce qui est quand même très coûteux. Un casque de réalité virtuelle, ça peut représenter environ 1 000 euros pour les plus coûteux, et l'ordinateur nécessaire pour faire fonctionner ce type de matériel. Donc il y a vraiment un impact, mais qui est soutenu par la tutelle, qui veut que la bibliothèque assume ce rôle de démocratisation et mette à disposition les technologies, et qui souhaite également avoir une image peut-être plus moderne, globalement en dehors de la bibliothèque, en proposant ce type de service dans leurs établissements culturels. En ce qui concerne les réseaux de grandes villes, c'est vrai que la diffusion des pratiques se fait peut-être de manière plus aisée, parce qu'une personne, en tout cas parmi les personnes interrogées, une personne est responsable du numérique pour le réseau, se charge de la veille, se charge de la formation, de l'acquisition du matériel. Donc il y a des partenariats peut-être plus aisés dans les grandes villes. J'ai quand même pu remarquer des partenariats pour plusieurs petites villes, notamment lors de l'organisation de temps de réalité virtuelle dans les maisons de retraite. Donc encore une fois, la démocratisation se fait dans les petites villes par des temps de partenariat. Donc c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, c'est la déconstruction d'images préconçues, d'idées préconçues que je pouvais avoir sur les technologies, en me disant des villes vraiment petites ne peuvent pas se le permettre. Peut-être que leur tutelle n'encouragera pas ce type d'initiative, et c'était exactement le contraire.
Alors, les partenariats, vous m'invitez à me tourner vers la droite, ce que je viens de faire, parce que c'est aussi au centre de la démonstration de Mathilde, sur l'élargissement non seulement de ces actions, je dirais, que mène la bibliothèque, mais également sur celles de leur envergure et de leurs partenaires.
Oui, alors, tout à fait. Donc, ces partenariats sont au fondement de la nouvelle offre, enfin des offres de services d'accompagnement aux démarches administratives en bibliothèque. Au sein de laquelle le projet politique a une importance fondamentale. Alors je vais m'expliquer. J'ai observé différents exemples. Et à chaque fois, les exemples, les territoires dans lesquels on nomme en tant que tel l'accompagnement aux démarches administratives, ces territoires-là portent particulièrement ce service, le financent et favorisent les partenariats extérieurs. Je vais parler de l'exemple de la commune du Tampon à La Réunion. Je parle de La Réunion parce que c'est un exemple qu'on évoque rarement. Donc cette commune a favorisé l'élaboration de conventions avec la CAF et avec Pôle emploi, de manière à former les bibliothécaires de la médiathèque tête de réseau de la commune, de manière à les former et à proposer également des ateliers en lien avec des travailleurs sociaux et des agents de Pôle emploi. Donc on voit là que ces partenariats permettent d'attirer de nouveaux publics. Alors non seulement les publics demandeurs qui ont exprimé un besoin en matière d'accompagnement aux démarches administratives, mais également des publics qui viennent ponctuellement pour cela et qui ensuite reviennent pour d'autres activités de médiation proposées par la bibliothèque. Voilà pour, oui. Pour ce qui est des partenariats.
Oui, et alors, parce que j'avais aussi relevé, comme pour la gamme Tiche, votre remarque sur les espaces qui ramenait dans une théorie générale qui est plutôt à l'ouverture des espaces, on l'a revu aussi, on l'a entendu tout à l'heure encore, une nécessité de ramener de la confidentialité, de ménager des petits mondes, comme le disait Pierre Lequeau tout à l'heure.
Oui, tout à fait, parce que donc l'accompagnement aux démarches administratives est donc. Un service particulier qui nécessite des conditions de confidentialité particulières, donc qu'il est important de respecter. Donc forcément, des réflexions s'ouvrent dans les établissements qui mettent ces services en place autour de l'organisation du service dans les espaces de la bibliothèque. Alors, plusieurs solutions ont été trouvées, soit utiliser un espace clos, type salle de formation, pour réaliser des ateliers ou bien des rendez-vous individuels. C'est le cas lorsque des services d'écrivains publics sont proposés dans les établissements. C'est le cas ici à la BPI pour tous les ateliers d'accompagnement aux démarches de la vie quotidienne, aux démarches administratives qui se déroulent dans l'atelier au deuxième niveau. De la bibliothèque, mais il y a aussi un accueil du quotidien, un aiguillage du quotidien réalisé par les bibliothécaires lors des plages de services publics, dans les points d'accueil, de renseignements bibliographiques. Et donc là, la question se pose de voilà, jusqu'où aller ? Est-ce qu'on renseigne tout de suite la personne ? Est-ce qu'on l'aide à réaliser ses démarches tout de suite ? Ou est-ce qu'on organise ensuite un rendez-vous ? Mais dans ce cas-là, on ne répondra pas à l'urgence sociale qui peut s'exprimer à ce moment-là. Voilà, suis-je compétent pour réaliser ces démarches ? Et donc cette réflexion autour de l'aménagement du service dans les espaces est importante, car ce service d'accompagnement aux démarches met un peu à mal la logique d'ouverture des espaces et encourage à les clore peut-être davantage pour proposer un service véritablement de qualité respectant la confidentialité. Donc voilà, ce sont des questions ouvertes dans mon travail.
Et si j'ai commencé avec Colline sur la différence de taille entre petit et grand réseau, quand on rentre dans le travail de Mathilde, on a l'impression, au contraire, que la méthode des personas, ça concerne d'abord les big projets. Là, il faut celui pour lequel vous avez commencé, en tout cas Condorcet, et l'exemple de Grenoble sont des exemples très structurés, très lourds. Alors peut-être là aussi, même si nous sommes à Paris, et que Condorcet est peut-être plus connu ici que dans le Rhône, mais peut-être le rappeler et dire en quoi, justement, sur des projets alors de création d'un côté ou de restructuration de l'autre, cette méthode a permis d'être un outil d'une rare efficience.
Alors, je nuancerai quand même un petit peu, c'est-à-dire qu'effectivement, l'exemple du campus Condorcet, qui avait été présenté dans le cadre de la journée d'études du congrès de la DBU en 2016, était, au moment où je me suis penchée sur cette question, l'un des rares exemples connus d'utilisation de personas en bibliothèque universitaire, et en l'occurrence, effectivement, à une échelle assez impressionnante, puisque le grand établissement documentaire du campus Condorcet Paris-Aubervilliers rassemblera une cinquantaine de bibliothèques, de services d'archives et de centres documentaires, et que la méthode des personas a été utilisée dans le cadre de la programmation de l'ensemble des services au public de ce futur établissement, avec l'idée vraiment de penser les publics au centre. Donc la difficulté, évidemment, c'était qu'à une telle échelle, avec un tel éclatement des sites, il était très difficile d'envisager une enquête dans les différents établissements. Donc, d'où la nécessité de trouver une méthode innovante, originale. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que les personas ont été mobilisés, du coup, en intégrant des usagers au groupe de travail qui a conçu les personas et ensuite le schéma directeur des services. Donc c'est-à-dire qu'il y avait des doctorants et des enseignants-chercheurs dans le groupe de travail et que donc finalement les personas ont été co-construits entre points de vue d'usagers et perspectives de professionnels. Et puis par la suite, démarche très intéressante dans ce retour d'expérience, c'est sa dimension itérative, c'est-à-dire que les fiches persona ont été validées en cours de route, là encore auprès d'usagers réels. Donc il y a vraiment eu une attention constante portée au fait que ces personas ne soient jamais déconnectés des publics et des usagers. Et ça, c'est une dimension qu'il ne faut jamais oublier, c'est-à-dire que le vrai danger des personas, ce serait justement de se couper des publics. Et donc, pour rebondir un petit peu sur ce que disait Colline, moi aussi, au fur et à mesure que j'avançais dans mon travail, finalement, j'ai été surprise par la diversité des retours d'expérience que j'ai recueillis. Diversité en termes d'échelle, diversité en termes de contexte d'établissement et diversité aussi dans les objectifs visés. C'est-à-dire que si on prend le campus Condorcet ou effectivement le SID de Grenoble ou encore la bibliothèque universitaire de Nanterre, là, ce sont trois exemples dans lesquels les personas ont vraiment été utilisés comme des outils d'aide à la conception. D'un ensemble, d'une programmation de services, une refonte de site internet, et pour la bibliothèque universitaire de Paris-Nanterre, dans le cadre de la création d'un centre de ressources et de culture numérique. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il y a également des établissements qui les ont utilisés comme des facilitateurs d'empathie. Il y a un établissement qui l'a utilisé comme un outil de projection dans le cadre d'une préfiguration d'un learning center. Et il y a même un établissement qui l'a utilisé là comme un outil de communication interne et qui du coup en fait a conçu des personas qui représentaient des bibliothécaires en tant que futurs usagers du nouveau SIGB de la bibliothèque. Donc ce qui est très intéressant en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que ça voulait dire que les personas étaient une méthode suffisamment souple pour s'adapter au contexte et aux contraintes des différents établissements. Et que chacun avait finalement mis en place différents outils pour s'assurer, quelles que soient les contraintes de planning ou les contraintes budgétaires, pour s'assurer que ces personas restent quand même connectés au public. Donc j'ai déjà parlé de la co-construction pour le campus Condorcet, de la possibilité de les faire valider en cours de route. À Nanterre, les personas ont été construits en deux temps. D'abord à partir de données déjà existantes et ensuite ils ont été enrichis et affinés avec une enquête dédiée, des entretiens et des focus group. À Grenoble, il y a eu une série d'entretiens sur le vif qui ont été faits par les différents participants au groupe de travail qui sont vraiment allés chacun dans la bibliothèque interroger 4-5 étudiants sur leur utilisation du site internet, leur pratique de navigation. Donc voilà, ce qui moi m'a surprise et que j'ai trouvé très riche, c'était finalement la façon dont plusieurs méthodes de recherche utilisateur finalement pouvaient être mobilisées, dans des versions plus ou moins approfondies, mais qu'en tout cas, le point commun, c'était la démarche globale, qui était vraiment cette volonté de penser les publics au centre, et puis cette attention portée à la validité et la crédibilité des personas. Et puis j'ajouterais aussi que tous ont vraiment consacré un vrai temps de pédagogie à la présentation de la méthode, pour lui donner du sens, pour expliquer au personnel pourquoi on utilisait les personas dans ce contexte. Et que ça, évidemment, c'est une étape primordiale, d'autant que c'est une méthode récente, encore peu connue, et qu'il est donc vraiment nécessaire de bien l'introduire, de bien la présenter, et encore une fois, surtout, de lui donner du sens.
Et en même temps, les expériences réussies, j'ai mal référencé ma citation sur la personne qui disait qu'après avoir testé la méthode, sa façon de voir la bibliothèque avait changé. Oui. Là, pour le coup, il y a effectivement un effet de transformation même de la façon de voir son métier par la façon d'expérimenter.
Oui, alors la citation, ça c'était un exemple aux États-Unis, puisque j'ai fait aussi un rapide panorama de ce qui avait pu se faire dans des bibliothèques à l'étranger. Mais en tout cas, moi, dans les entretiens que j'ai eus, encore une fois, avec les personnels que j'ai pu interroger, effectivement, c'est vrai qu'il y a des choses très concrètes, manifestement, qui sont sorties de ces expériences d'atelier persona, puisqu'un certain nombre d'entre eux m'ont dit, par exemple, que... ça les avait, par exemple, incités à être davantage tolérants, qu'ils avaient davantage compris les difficultés de certains usagers, qu'ils avaient parfois compris que le vocabulaire qu'ils utilisaient sur le catalogue n'était pas forcément très clair pour le public qui fréquentait la bibliothèque. Voilà, donc ça, c'est probablement des choses, effectivement, qu'on entend. Mais là, le fait vraiment d'utiliser les personas et du coup de se glisser dans la peau de ces usagers, manifestement, ils en ont vraiment pris compte, ils l'ont vraiment ressenti. Et du coup, effectivement, il y a une forme un petit peu de... Le regard est un petit peu modifié, effectivement, sur les usagers.
Et comment, il y a une dimension particulière du projet d'établissement que pointe Colline, qui est sur la valorisation patrimoniale. Alors c'est un sujet qui est tout à fait intéressant, qui pourrait questionner aussi Mathilde Herrero, parce qu'effectivement l'aide à la démarche administrative, comme on l'a vu dans l'exposé précédent, c'est aussi de faire société, et on pourrait imaginer du travail patrimonial, mais là c'était pas le cœur de son sujet. En revanche, puisque je m'intéresse au seuil critique en ce moment, dans cette partie de la discussion, vous dites donc la valorisation patrimoniale représente un des domaines dans lesquels les technologies immersive pour apporter une réelle contribution, puisque vous allez justement prendre en charge, et on vous en félicite, une responsabilité patrimoniale dorénavant. Est-ce que vous avez déjà des idées, ou est-ce qu'on peut répliquer le constat que je faisais pour les jeux tout à l'heure, c'est-à-dire que pour les très gros établissements, ça fonctionne, il y a des gros projets qui bénéficient déjà d'une notoriété. Vous citez l'application Histopad, alors là aussi je l'ai découverte à votre lecture, vous allez pouvoir la présenter. Et j'ai vu que la première personne qui en faisait dans une recherche basique, c'est Stéphane Bern qui disait que l'Histopad de Chambord était merveilleux. Donc effectivement, je ne sais pas si c'est le Stéphane Bern du petit patrimoine ou Stéphane Bern des rois et reines.
Alors, je ne savais pas que Stéphane Bern faisait la promotion d'Histopad, mais si ça peut favoriser son utilisation, c'est intéressant. Donc, pour résumer rapidement, Histopad, c'est une application qui existe actuellement et qui permet, en réalité augmentée, excusez-moi, et qui permet aux utilisateurs d'avoir un aperçu. Par exemple, il me semble pour la conciergerie ou la Sainte-Chapelle, d'avoir un aperçu de l'édifice, du monument, à son époque de construction. Ce qui est assez intéressant également. Bon, là, c'est une application qui est destinée au grand public, mais les reconstitutions archéologiques et les reconstitutions architecturales sont une des possibilités offertes par la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Donc, c'est vrai que ce type d'application pourrait être intéressant. Et j'en avais parlé dans mon mémoire pour les bibliothèques. On peut par exemple évoquer les fonds anciens, une valorisation des fonds anciens, une valorisation des bibliothèques en tant qu'édifice et en tant que monument historique. Effectivement, comme vous le dites, la limite de ce type d'application, c'est que l'application doit être conçue, doit être construite par la bibliothèque, mais bien évidemment avec le recours à des compétences, à des prestataires externes et à une logistique assez lourde. Ce qui implique donc effectivement que l'établissement dispose des moyens humains, des moyens financiers nécessaires. Effectivement, ce type de moyens est plus envisageable par les grands établissements et par les bibliothèques de réseau de taille conséquente. Pour des petites bibliothèques, le développement d'applications patrimoniales, de réalité augmentée ou de réalité virtuelle paraît plus complexe. Mais en revanche, sur cette question, je voulais aborder l'existence d'aides qui sont accessibles et qui sont offertes par le ministère de la Culture pour des dispositifs numériques innovants. Donc le ministère de la Culture met à disposition des entreprises du numérique et d'établissements culturels. Donc on pense aux musées peut-être en premier lieu, mais c'est également accessible à des bibliothèques, des dispositifs d'aide financière et d'accompagnement pour des partenariats entre des startups ou des entreprises du numérique et des établissements culturels. Donc c'est vrai que les premiers exemples concernaient davantage les musées, mais il y a vraiment, je pense, un intérêt pour les bibliothèques, même de taille, de moyens humains financiers modestes, à avoir recours à lancer ce type de projet, ce qui permet de valoriser leurs collections. Je voulais signaler également, ce n'est pas exactement de la valorisation de collections en soi, mais dans la région, enfin l'ex-région Nord-Pas-de-Calais, il y avait eu un soutien du ministère de la Culture à une entreprise, à une start-up numérique, pour la création d'un livret qui expliquait la création, l'apparition de l'imprimerie et qui plongeait l'utilisateur,
enfants ou adolescents dans un atelier d'imprimerie à l'époque de Gutenberg. Donc ça peut être une piste de, voilà, une piste de création. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que ce type de dispositif engage un travail conséquent. Donc plus les bibliothèques voilà, de taille conséquente sont peut-être plus aptes à développer ce type de projet. Cependant, voilà, il y a vraiment des aides qui apparaissent et je pense que, voilà, avec un réel soutien de la tutelle et du ministère, c'est tout à fait possible pour des bibliothèques plus modestes de s'emparer de ce type d'application et d'en créer une version plus personnalisée.
Oui, c'est ça, parce qu'effectivement, créer une application, ça demande des moyens, effectivement.
Voilà, oui, bien évidemment.
Se glisser dans une application, ça en suppose d'autres. On a des exemples, notamment avec les maisons d'écrivains qui arrivent à faire, non pas tout à fait de la réalité augmentée, mais en tout cas, faire des visites augmentées, des balades en ville avec parcours littéraires ou des choses comme cela. Et je rappelle, je vous l'avais indiqué, en fait, quand on est dans des fonds patrimoniaux de quelque importance, au moins moyenne, on se trouve en fait avec des dispositifs antérieurs à nos réalités augmentées. Le patrimoine dans nos bibliothèques, c'est sans doute ce qu'il y a de plus divers et de plus multimédia. Et d'ailleurs, on les ressort maintenant. Les réseaux sociaux favorisent l'émergence de ces jeux de miroirs et autres dispositifs plus ou moins ludiques de livres animés et autre chose qui avait dans l'intention, je dirais, de rendre le livre 3D n'est pas tout à fait nouvelle liée à la technologie numérique. Donc, nul doute que vous trouverez des solutions pour peut-être reconstituer les sacres. Ce sera extraordinaire. Ça rejoint quelque chose qui était dit tout à l'heure aussi et qui était l'alternative de la discussion sur l'explication. Quelle est la part, en quelque sorte, de l'explication technique, professionnelle, académique, en quelque sorte, les professionnels qui expliquent, ça rejoint, en tout cas, ce que disait Pierre Lequeo sur ne donnons pas les mêmes arguments à tout le monde, il y a des arguments qui collent aux uns et d'autres un petit peu moins. Comment dirais-je ? Je vais recommencer par Mathilde Laurie-Regnault sur l'explication technique ou la narration à la lecture de votre mémoire, mais avec l'expérience de votre travail. Est-ce que finalement l'argument du professionnel qui participe à cette expérience de persona est plus dynamisé, je dirais, par le côté jeu de rôle ou par le côté rationnel des résultats auxquels il aboutit?
La dimension ludique de la fabrication des personas manifestement joue un rôle, joue davantage un rôle dans la façon, par exemple, qu'elle a de libérer la parole ou de faciliter les échanges. Avant de faire des différents entretiens, j'avais fait passer un questionnaire auprès des agents qui avaient participé aux ateliers Persona. Et effectivement, après leur avoir posé une question liée à l'empathie, qui permettait de vérifier que oui, les personas incitaient vraiment à se mettre à la place de l'usager, je leur demandais également si les personas les avaient incités à participer activement à cet atelier, à davantage prendre la parole. Et de fait, dans les réponses que j'ai eues, oui, manifestement. Donc après, dans les entretiens, il y a même une bibliothécaire qui m'a dit « Oui, effectivement, j'ai dit des choses dans ce contexte que je n'aurais peut-être pas dites dans un contexte beaucoup plus formel, plus vertical. » Donc, de toute évidence, la dimension ludique, la dimension inclusive aussi de cet outil, favorise l'engagement dans l'atelier. C'est-à-dire que ce qui est intéressant aussi avec les personas, et c'est le dernier bénéfice que j'ai pu identifier avec mon travail, donc au-delà de permettre d'incarner des publics qui ont des besoins différents, hétérogènes, parfois contradictoires, au-delà d'inciter à se mettre à la place de l'usager, manifestement, les personas sont aussi un véritable outil en faveur de ce qu'on appelle l'intelligence collective. Puisque le principe de l'atelier de création ou d'animation de persona, c'est qu'il doit réunir une grande variété de points de vue, une multiplicité de points de vue. Donc appliqué au monde des bibliothèques, ça veut dire que dans des ateliers persona, on mélange les générations, on mélange les services, on mélange les catégories, on mélange les postes, pour justement avoir des expériences différenciées de rapport au public. Et pour que du coup, il y ait vraiment un enrichissement de chacun. Chacun partage son expérience des publics. Alors là, c'était d'autant plus pertinent dans certains retours d'expérience où il y avait des agents qui étaient amenés à travailler ensemble, alors que jusqu'à présent, ils étaient dans des bibliothèques qui avaient des publics aux pratiques très différentes. Donc chacun, finalement, pouvait échanger sur les pratiques de ces publics. Et on arrivait donc à une espèce de convergence. Comme le dit joliment Nathalie Clos, c'est un outil qui incite à regarder ensemble dans la même direction. Et puis, du coup, les barrières hiérarchiques se font moins prégnantes, ça aplanit les différences de culture métier. Donc voilà, il y a vraiment aussi cette dimension de cohésion, de convergence, qui là encore est un peu facilitée par la dimension ludique de l'exercice, mais qui font qu'effectivement, au-delà en chemin en tout cas vers les résultats auxquels on tend, il y a aussi dans la façon de travailler un véritable apport en termes d'équipe.
Vous avez employé le mot ludique et Colline en a un exemple. Alors, à Rennes, ce qui me fait penser que j'ai oublié de signaler, de remercier Mathilde de droite, si j'ose dire, qui elle-même revient de Rennes, où elle intervenait ce matin, donc elle est revenue exprès pour nous, il fallait l'en remercier tout spécifiquement. Et je n'oublie pas que l'année dernière, lors de ces mêmes journées, nous parlions de réseaux sociaux dans 4 bibliothèques, dont certaines connaissaient en quelque sorte des avatars. Et justement, là où la réalité rejoint la fiction, si j'ose dire, c'est quand le musée des Beaux-Arts de Rennes crée un avatar 3D pour donner des explications à ses tableaux. C'est ça ?
Oui, exactement. C'est un dispositif assez ancien que je n'ai pas eu l'occasion d'expérimenter parce qu'il date de l'été 2010. Et il me semble que c'était l'étape d'expérimentation, mais ça fait partie des dispositifs de médiation culturelle qui sont envisagés dans le cadre d'expositions, et non pas seulement d'ailleurs dans les musées, puisqu'en bibliothèque, j'ai pris connaissance de plusieurs dispositifs qui avaient été créés pour des expositions en réalité augmentée. En réalité virtuelle, c'est plus compliqué. Pour des expositions en réalité virtuelle, la plus connue, et je veux dire l'un des seuls exemples, a eu lieu à la Bibliothèque nationale de France l'année dernière pour l'exposition Les bibliothèques la nuit. Pour les visiteurs, il y avait la possibilité à la fin de l'exposition de mettre un casque de réalité virtuelle et d'explorer la thématique des bibliothèques, bibliothèques rêvées, bibliothèques mythiques, bibliothèques actuelles, à travers la visite de 10 bibliothèques reconstituées, certaines qui n'existent plus, comme la bibliothèque d'Alexandrie, et d'autres qui sont encore tout à fait parmi nous. En ce qui concerne la réalité augmentée, plusieurs exemples sont apparus et les bibliothécaires ont pu s'emparer des outils plus facilement. Pour prendre un exemple, à la bibliothèque Gaspard Monge de Beaune, et une exposition avait été organisée sur Léo Ferré, sur son œuvre, sur sa vie, et les bibliothécaires se sont emparés de la réalité augmentée et d'une application qui s'appelle maintenant HP Reveal pour mettre sur certaines œuvres des sortes de petits marqueurs qui permettaient aux visiteurs, lorsqu'ils passaient sur ces marqueurs avec la tablette qui leur était fournie, d'accéder à plus de contenu libre de droit, je précise, des vidéos, des photos, du texte. Donc il y a vraiment un enjeu de médiation assez fort et un contenu supplémentaire qui peut être fourni aux visiteurs. À condition, et c'est ce que le responsable de la bibliothèque qui était en charge du projet me l'avait expliqué, à condition que des explications, un accompagnement soient fournis aux visiteurs dans leur appréhension du matériel. Mais globalement, une fois que les premières explications étaient données, les visiteurs s'emparaient du contenu sans problème. Et la réalité augmentée avait joué un vrai plus pour l'exposition. Elle n'était pas présente à l'origine pour cette exposition et elle a été ajoutée lors de la période d'été. Ce qui est à la fois un hasard, étant donné que l'équipe avait eu connaissance de l'outil, de l'application qui permettait de créer du contenu en réalité augmentée, et qui n'est donc également pas un hasard, puisque l'équipe voulait redynamiser l'exposition lors de la période d'été. Et ça a bien fonctionné, à la fois auprès des médias qui ont relayé l'information, et des visiteurs qui sont venus à la fois pour l'exposition et aussi pour découvrir l'application.
Oui, les avatars révèlent et dévoilent, dirait un excellent collègue. Mais, c'est une... mais sinon, donc, il n'y a pas que du discours de narration, je dirais, donner le futile du récit collectif. Il y a la nécessité de mettre une certaine en capacitation, pour reprendre le terme entendu tout à l'heure, dans les équipes, dans les projets professionnels, donc adopter une attitude managériale, pour prendre le terme contemporain. Toutes les trois, vous avancez d'une manière ou d'une autre dans vos travaux, dans votre mémoire, la nécessité d'un projet, voire d'une pensée à visée globale. Et là encore, je reprends, parce que comme ça, on aura presque fait le tour des commandements de l'UX, tendre vers l'universel. La collègue qui s'en est qui a le plus, je dirais, avancé sur cette voie, c'est Mathilde, qui dans le mémoire comprend un certain nombre de fiches pratiques pour répandre l'usage de l'ADA en bibliothèque. Donc, comment est née cette nécessité d'intégrer des fiches concrètes qu'il faudra donc, je vous le rappelle, verser dans les fiches de l'ENSIB, dans les projets. Et d'autre part, quelle est la fidélité, je dirais, de cet enjeu par rapport à la culture professionnelle ?
Alors en effet, j'ai choisi de consacrer ma troisième partie à des fiches pratiques parce que, en fait, lorsque j'ai commencé mes entretiens exploratoires et mon questionnaire, lorsque j'ai lancé mon questionnaire exploratoire, je me suis rapidement rendu compte que c'était un service qui posait question. Alors dans deux sens, soit parce qu'il interrogeait de manière... comment dire, soit parce que les gens ne voyaient pas du tout de quoi je parlais, soit parce que ça interrogeait par rapport aux missions des professionnels actuellement. Donc, comme cet accompagnement des démarches administratives comporte d'importantes difficultés dans sa mise en œuvre, j'ai choisi d'explorer des pistes de réflexion à proposer aux professionnels, donc sans l'ambition de révolutionner le quotidien des professionnels, mais voilà, proposer des pistes d'organisation du travail. Voulez-vous que je présente globalement? Oui. Alors, j'ai organisé mes fiches pratiques de la manière suivante, dans une logique de mise en œuvre d'un service, d'une offre de service. Donc, j'ai commencé par le premier aspect, sensibiliser les équipes, les élus et les acteurs du territoire. Donc là, en rappelant un certain nombre d'arguments pour prouver le rôle que les bibliothèques peuvent jouer dans la mise en œuvre d'une politique territoriale globale, transversale, de lutte contre les inégalités d'accès aux droits. Ensuite, je propose des actions, des fiches pratiques pour tenter d'analyser le territoire, analyser les publics, comprendre leurs besoins, mais également faire une cartographie des partenaires potentiels, de l'ensemble des partenaires, alors dans les bibliothèques, dans le milieu culturel, mais également dans les services de l'État, les services des collectivités et les partenaires associatifs, oui. Donc il s'agit là de rentrer dans une démarche globale et transversale, d'essayer de décloisonner absolument, parce que l'accompagnement aux démarches administratives réalisées en bibliothèque a nécessairement besoin de cela, sinon, voilà, c'est peine perdue. Ensuite, en troisième objectif, je propose des pistes pour concevoir et organiser le service de manière concrète. Donc, il s'agit là de préciser les contours du service, d'anticiper la mise en œuvre dans un dialogue avec les publics et avec les autres acteurs et les partenaires extérieurs pour proposer un service le plus adapté possible aux besoins, aux attentes de tous les acteurs. Donc là, en fonction des territoires, ça peut prendre des formes totalement différentes. Il y a peut-être même des territoires dans lesquels l'accompagnement aux démarches administratives n'est pas du tout justifié. Donc ça, c'est vraiment un enseignement que je retire des entretiens que j'ai réalisés et du questionnaire que j'ai diffusé. C'est qu'il n'y a pas deux territoires identiques, que chaque territoire est singulier et qu'il y a des services d'accompagnement aux démarches administratives. Donc là, se poser les questions Le service d'accompagnement sera-t-il en libre accès ou directement animé par un médiateur? Qui doit animer ces activités? Le personnel de la bibliothèque, un partenaire extérieur? Sera-t-il ponctuel ou régulier? Sera-t-il ouvert à tous sans condition ou accessible sur rendez-vous? Sera-t-il assuré, donc, par, oui, je l'ai dit, par les équipes de la bibliothèque ou par un partenaire? Où se déroulera-t-il? Donc là, je ne vais pas me répéter, mais voilà, donc quels espaces, comment aménager les espaces? Et quand se déroulera-t-il? C'est aussi une question importante, étroitement liée à la question des publics, des populations du territoire fréquentant la bibliothèque, mais également de l'aménagement des espaces, puisqu'on peut décider d'offrir un tel service en dehors des horaires d'ouverture pour des raisons pratiques de saturation des salles de formation, des espaces clos. Voilà, alors ensuite, en quatrième objectif, je propose des pistes de réflexion sur l'accompagnement des équipes, des établissements pour la mise en œuvre de ces services, car en effet, comme je le disais tout à l'heure, ce nouveau service interroge. On voit soit des équipes qui s'engagent complètement dans le domaine parce qu'il y a un portage politique fort, parce qu'il y a peut-être des convictions individuelles ou parce qu'ils sont confrontés à un public en demande avec une urgence sociale prégnante. Ou alors on est confronté également à des équipes qui ne se sentent pas capables d'assurer un tel service et qui, du coup, n'osent pas nommer ce service d'accompagnement aux démarches administratives en tant que tel, et qui parle de médiation numérique. Alors certes, oui, c'est vrai que c'est de la médiation numérique, mais c'est vrai que peut-être qu'il serait intéressant de mettre des mots là-dessus pour rendre ce service davantage visible et ensuite justifier davantage le rôle de la bibliothèque dans le territoire, notamment auprès des élus. Voilà, et c'était le dernier objectif pour lequel j'ai proposé des pistes de travail, le renforcement de la visibilité pour, in fine, pourquoi pas, obtenir des financements.
Alors, il y a deux... Ça y est, je vois Muriel qui commence à se lever, signe que l'heure tourne. Pour avancer, enfin, vous lancez quand même des pistes sur deux aspects vers lesquels je vais me tourner, vers nos voisines de gauche, parce qu'en particulier pour la partie réalité augmentée ou virtuelle, les questions matérielles d'un côté et managériales ensuite avec Mathilde. Questions matérielles, ce sont des questions que toute la salle se pose, bien sûr. Combien ça coûte? Est-ce que la dépense est uniforme? Quelles sont les contraintes bibliothéco-économiques, je dirais, de ce genre de service?
Alors, avec un sujet aussi mouvant que la réalité augmentée, la réalité virtuelle, je pense que ma réponse ne sera pas la même que dans mon mémoire aujourd'hui, puisque un matériel, de nouveaux outils, de nouveaux équipements apparaissent régulièrement et... Voilà, ma réponse aurait un peu évolué. En tout cas, c'est vrai que la question du matériel et des finances, de l'investissement financier, je l'ai évoqué précédemment, est quelque chose d'important. Donc pour la réalité augmentée, ce que j'ai pu constater, c'est que globalement, le prix, le coût des dispositifs avec cette technologie sont relativement peu élevés. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le matériel nécessaire pour l'utilisation de ces dispositifs, ce sont des tablettes, des smartphones. Les tablettes, le plus souvent utilisées lors des dispositifs de réalité augmentée en bibliothèque, ont déjà été acquises précédemment dans une volonté par la bibliothèque de mettre à disposition donc, ces tablettes auprès des usagers, que ce soit sur place ou dans le cadre de prêts. Donc, les professionnels que j'ai pu interroger m'ont dit que la réalité augmentée n'avait pas tellement posé de problème à ce niveau. Je tenais quand même à signaler une initiative que j'ai trouvée assez intéressante à la médiathèque de Saint-Avertin, puisque cette médiathèque avait lancé un jeu appelé Pokébib, donc en lien avec Pokémon Go, mais où les membres de la bibliothèque avaient accepté de jouer le jeu, de devenir chacun une sorte de Pokémon avec un nom. Et une chasse au trésor avait été organisée dans la bibliothèque auprès de tout type de public, puisque même, pas seulement les enfants et les adolescents, mais aussi les adultes avaient participé au jeu. Et ce qui est intéressant au niveau matériel, c'est que l'équipe de la médiathèque a bien réalisé que ce jeu nécessitait d'employer un smartphone. Or, peut-être que une certaine partie de la population est équipée de smartphones, mais une autre partie n'en est pas équipée. Et l'équipe a donc anticipé en récupérant auprès
des services techniques des anciens smartphones du personnel ou voilà, de l'équipe des smartphones professionnels qui étaient mis à la disposition des usagers. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant parce qu'on part parfois aussi du présupposé que voilà, les usagers sont équipés, disposent eux-mêmes des outils qui sont nécessaires pour l'utilisation d'applications en réalité augmentée. Là, il y a vraiment eu une nécessité, une volonté de réfléchir et de fournir à tous les outils pour utiliser ce jeu. En ce qui concerne la réalité virtuelle, je l'ai évoqué un petit peu précédemment, c'est assez différent puisque jusqu'à récemment, l'utilisation d'un casque de réalité virtuelle, je ne parle pas des Google Cardboard, des casques qui peuvent être montés soi-même et qui coûtent une trentaine d'euros, mais davantage des casques comme l'Oculus Rift, l'HTC Vive, vraiment des casques assez conséquents. Il fallait avoir à la fois le casque, les manettes, là où les manettes, et un ordinateur avec une puissance suffisante pour utiliser des applications, des jeux. Récemment, il y a eu l'apparition et la mise sur le marché de casques portatifs et autonomes qui ne nécessitent pas d'ordinateur. Donc, pour répondre un peu plus brièvement à votre question, la réalité virtuelle nécessite vraiment à la fois d'avoir un appui de la tutelle et le fait d'intégrer ces dépenses au budget de la bibliothèque. Pour la réalité augmentée, c'est plus simple.
Et Mathilde, si vous voulez bien, parce que donc on avait relevé deux mots clés. Le premier était l'empathie au début, et ce que vous soulignez aussi régulièrement, c'est la convergence pour le travail, donc en management des équipes. Cette fois-ci, la méthode de Persona a des effets positifs également au-delà de leur objet premier d'optimiser le service.
Oui, tout à fait, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Et pour rebondir un petit peu sur ce que disaient Mathilde et Colline, je pense que ce qui est très important aussi, c'est la question de la formation, puisque je pense qu'il y a vraiment un gros enjeu autour de la formation initiale et continue pour la diffusion des méthodes d'expérience utilisateur, puisque je pense qu'il y a encore probablement l'idée que ce sont des méthodes qui sont chronophages, qui sont extrêmement contraignantes. Ça n'est pas forcément le cas. Il existe notamment des versions guérilla de ces méthodes. Alors guérilla, ça veut dire adapter justement aux contraintes de calendrier, aux contraintes humaines ou budgétaires. Et donc je pense que plus on diffusera l'ensemble de ces méthodes et plus les personnels des bibliothèques auront déjà entendu parler ou connaîtront déjà ces méthodes, et plus il sera facile de les mettre en place et de gagner du temps. Et en fait, ce qui serait même, je pense, particulièrement intéressant, c'est ça existe aux États-Unis. Il existe des UX librarians, c'est-à-dire des bibliothécaires vraiment spécialistes de l'UX et qui, du coup, sont chargés finalement d'une veille permanente sur l'expérience utilisateur, sur l'observation des usagers, et qui permet, du coup, vraiment d'avoir une espèce d'évolution constante et d'adaptation continue à l'évolution des publics, de leurs usages. Et on pourrait imaginer comme ça que ce qui aujourd'hui paraît peut-être encore comme des méthodes peu utilisées, assez nouvelles, mais moi il me semble qu'on pourrait arriver au contraire à ce que ce soit presque la norme et quelque chose finalement d'intégré au métier des bibliothèques.
Donc vous voulez aussi me faire une fiche pratique? on retient. Peut-être, alors, comme effectivement, en plus, il faut que nous terminions à 17h30, alors pas pour des raisons logistiques, mais pour des raisons individuelles, je dirais, je crois, vous devez vous libérer. Il est temps que je laisse la parole à la salle, si celle-ci veut la prendre.
Bonjour.
Bonjour. Ça marche, oui, vous y allez.
Alors, j'avais une question à propos des personas et de l'expérience utilisateur, parce que, alors je sais que depuis quelques temps, on utilise de plus en plus dans les bibliothèques les méthodes d'observation ethnographique. Dans le cadre justement d'expérience utilisateur, et je voulais savoir si il y avait des liens qui étaient faits justement entre les personas et l'ethnographie.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les personas doivent être construits à partir de l'observation des usagers. Donc, évidemment, le recours aux méthodes inspirées de l'ethnographie est largement sollicité. Et du coup, alors, aux États-Unis, c'est quelque chose qui est très courant. Alors, également parce que les moyens des bibliothèques universitaires, notamment, ne sont pas les mêmes, et que donc ils font régulièrement appel à des ethnographes qui viennent vraiment travailler pour eux et leur fournir des données extrêmement riches pour nourrir, par exemple, des personas. Mais moi, je pense que ce qui pourrait être intéressant pour les bibliothèques françaises, en tout cas les bibliothèques universitaires françaises, c'est justement imaginer, notamment dans les bibliothèques dans lesquelles on a la chance d'avoir des étudiants en sociologie ou en ethnographie, justement d'imaginer des formes de collaboration qui permettraient d'envisager la création de personas avec des enquêtes ethnographiques qui serait assuré par les étudiants, et du coup ce serait inscrit dans la maquette pédagogique, et évidemment qu'il y a une collaboration extrêmement intéressante à imaginer entre des étudiants ou des spécialistes de l'ethnographie et des bibliothèques dans ce contexte. Ouais.
Sinon, on n'a pas tout dit. Alors, parce que je précise que si l'un ou l'autre ou tous les sujets vous ont intéressé, ils sont déjà disponibles dans la bibliothèque numérique de l'ENSIB pour une lecture détaillée. Ce sont d'excellents devoirs et d'excellents travaux qui vous donneront en plus toutes sortes de références. Ils sont très, très, très documentés. Alors, s'il m'est possible de garder encore un peu, non pas le micro, mais de temps, je me retourne vers Mathilde. Est-ce que les personas vous semblent être... peuvent jouer l'outil de conviction politique dont on se demandait tout à l'heure si... quel outil pourrait le faire?
Alors, c'est effectivement l'une des questions que je me posais au moment où j'ai débuté mon mémoire. Je n'ai pas vraiment eu l'opportunité, à travers mes recherches, de vérifier cette hypothèse. Mais l'idée, c'est effectivement, dans la mesure où, quand il est question de service, il paraît quand même compliqué de se référer à des chiffres. Est-ce que finalement le persona ne pourrait pas être un outil intéressant pour rendre compte justement d'une expérience qui est davantage de l'ordre, enfin qui est davantage qualitative que quantitative, et davantage finalement de l'ordre du sensible. Donc, comme encore une fois c'est une méthode qui est très récente en France, je n'ai pas vraiment eu l'occasion du coup d'aller jusqu'au bout et de voir la façon dont on pouvait communiquer sur les personas, voire de les utiliser comme un outil effectivement de conviction politique. Mais il me semble en tout cas que dans ce cas, il est important que les personas aient été précédés pour le coup d'une véritable enquête. C'est-à-dire que je pense, pour qu'on puisse utiliser les personas vraiment comme un outil d'argument politique, pour le coup, il paraît important, surtout au début, voilà, parce que c'est pas habituel, que ça s'appuie pour le coup vraiment sur une véritable enquête faite à partir d'entretiens, de focus group, de séquences d'observation dédiées, pour vraiment pouvoir revendiquer une assise la plus concrète, la plus crédible possible. Mais effectivement, je pense que c'est une piste intéressante, à la fois comme un outil de communication. Aux États-Unis, il y a un certain nombre de bibliothèques universitaires qui mettent en ligne leurs personas. Donc ça veut dire que leurs personas font vraiment partie de leur façon de communiquer sur les services de la bibliothèque. Et de la même façon, oui, pourquoi effectivement ne pas imaginer qu'un jour, plutôt que un diagramme, une représentation chiffrée ou des camemberts, après tout, on voit apparaître les noms de personas dans des réunions destinées à justifier le service rendu par la bibliothèque.
Oui, mais sans doute. Hein, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur fiction, etc. Faire du storytelling. Parce que c'est dans les cas limites, et là encore, si quelqu'un dans la salle ou quelqu'une souhaite reprendre le micro, on laisse la parole bien volontiers. C'était aussi une des difficultés pointées par Mathilde, puisque vous avez évoqué tout à l'heure l'ouverture des projets politiques ambitieux et peut-être la difficulté de pointer des sujets. Et parfois, pour dire les choses comme elles sont, parce que toutes les bonnes idées ne suscitent pas forcément un enthousiasme immédiat. La difficulté d'accompagner les professionnels vers des projets plus ouverts.
Oui, alors ça, c'est une limite que j'ai pu constater lorsque j'ai diffusé mon questionnaire exploratoire, donc qui avait pour but d'identifier des établissements, en plus des établissements que j'ai pu identifier par le biais de la bibliographie. Et en fait, je me suis heurtée rapidement à la difficulté suivante. C'est que ne m'ont répondu que les établissements qui déploient de manière affirmée et volontariste une politique de lutte contre les inégalités d'accès aux droits et qui implique les bibliothèques au sein de cette politique territoriale. Et donc, forcément, j'ai dû limiter ma réflexion à certains territoires. Et donc, au final, j'ai surtout étudié des territoires urbains, type quartier prioritaire politique de la ville, alors qu'au départ, j'avais pour objectif de comparer des territoires ruraux, urbains, périurbains. Voilà, donc trop ambitieux. Donc là, ça a bien marqué le flou qui entoure la notion d'accompagnement aux démarches et puis le flou dans les pratiques professionnelles également parfois.
Et une autre limite d'un autre ordre que pointait Colline dans ses usages numériques est une question d'ordre juridique, réglementaire.
Oui, alors il y a une question qui est encore relativement peu abordée en ce qui concerne la réalité augmentée et la réalité virtuelle en bibliothèque. Bon, ce sujet commence à émerger bien évidemment, mais c'est assez limité. C'est la question du cadre réglementaire pour la projection publique à la fois des contenus, que ce soit jeux, expériences immersives en réalité virtuelle, puisque la projection, j'aurais peut-être dû le dire avant, la projection des contenus en réalité virtuelle, se fait à la fois dans le casque et sur l'écran de l'ordinateur, et plusieurs bibliothèques choisissent même de projeter ce contenu sur un écran pour que les autres usagers puissent observer ce qui se passe dans le casque. Et donc le cadre réglementaire concernant la projection publique de ces applications, mais également du contenu virtuel de livres en réalité augmentée, ce qui apparaît sur la tablette. Le cadre réglementaire, pour l'instant, ce qui existe, c'est une tolérance de fait des éditeurs de jeux vidéo, des éditeurs d'applications face à ces projections publiques. Cependant, c'est vrai que c'est une question qui est encore assez éludée par les bibliothécaires qui mettent en place ces dispositifs, ou voilà, qui comptent vraiment sur cette tolérance de fait pour continuer, pour poursuivre leurs pratiques, pour poursuivre leurs dispositifs. Il y a quand même une prise en compte, bien évidemment, des questions juridiques, et notamment, je parlais tout à l'heure des contenus libres de droit. Plusieurs professionnels que j'ai interrogés, qui ont par exemple créé des expositions en réalité augmentée, ont bien souligné l'importance de vérifier les droits associés au contenu, à l'enrichissement de leur exposition. Et ils essayent donc progressivement d'intégrer ces questions à leur dispositif et au contenu qu'ils sélectionnent. Une dernière dimension juridique importante et qui est particulièrement, je dirais, dans l'actualité actuellement, concerne les données personnelles qui sont associées à certaines des applications. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre sur la question, je ne suis pas une juriste, donc pas une spécialiste, mais il y a cette question dont doivent s'emparer les bibliothèques, et notamment pour les applications de réalité augmentée et de réalité virtuelle, la question des données qui sont associées à l'utilisation de leurs dispositifs. Donc voilà, je pense que ça n'est pas tellement un obstacle, mais en tout cas une question qui doit être intégrée de plus en plus par les professionnels qui utilisent ces technologies.
Merci. Alors, si vous avez vraiment une question, c'est le moment, parce que sinon, on va clore les débats.
Alors, une question pratique. Alors, vous disiez tout à l'heure que les mémoires étaient disponibles sur la
bibliothèque numérique de l'ENSIB. Oui.
On va donner accès également sur le...
Oui, bien sûr.
Les PowerPoint qui ont été présentés au cours de la journée.
Tout à fait.
Et donc, cette bibliothèque, elle est librement accessible ?
Tout à fait, gratuitement. Elles ne toucheront pas de droits. C'est une... Et là, non, mais je vous en prie. Donc, moi, je remercie les collègues de s'être prêtés à cet exercice un petit peu acrobatique, comme ça, de rebondir sur des questions avec des sujets qui étaient pas tout à fait convergents, pour le coup, hein, Mathilde. Là, il a fallu que nous travaillions un peu sur le sujet. Je remercie l'assistance d'y avoir prêté attention. Je suis reconnaissant donc à mes collègues à cette tribune d'avoir parlé et de leur optimisme et des difficultés qu'elles ont pu rencontrer, parce que la réalité, c'est aussi les difficultés. Pour ma part, ce que je note, c'est que de différentes manières, je dirais, la subjectivité intervient de plus en plus dans un métier comme celui du bibliothécaire, où la neutralité était vécue comme une nécessité absolue. On tient compte de la réalité des personnes physiques et intellectuelles que sont les usagers comme les bibliothécaires. Je crois que les trois exposés ou les trois interventions de Colline, d'une part, Mathilde et Mathilde l'ont montré, et je vous remercie, je vous prie de les en remercier par des applaudissements pour leur excellent travail.